France Culture.
Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de rites funéraires, de rites de passage, de mort comme étant intrinsèque à la vie et comme une réalité humaine, avec Céliande Lebon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales et vous vous intéressez à ce rite funéraire qu'est le lavage des dépouilles mortelles. Et vous vous intéressez aussi tout particulièrement à l'émergence ou l'institutionnalisation d'un métier qui est celui de laveuse, donc au féminin. Ce sont des femmes qui lavent le corps des femmes défuntes parce que ces rites funéraires sont genrés, comme on dit maintenant. Bien sûr, les hommes lavent les corps des hommes et les femmes, celui des femmes. Comment étiez-vous intéressé à ce sujet? Certes, il relève de l'anthropologie et c'est ce qui est votre discipline, mais l'approche est plutôt ethnographique aussi.
Après un master qui concernait plutôt les rites funéraires en contexte migratoire dans la diaspora kabyle française, donc algérienne et plus précisément kabyle, j'ai découvert en fait petit à petit une activité ou un métier, cela dépend comment mes interlocutrices souhaitent le revendiquer, qui a fait sa route depuis les premières vagues de migration qui étaient avant exclusivement masculines, qui petit à petit se sont féminisées. Et donc forcément, féminisation veut aussi dire que les femmes décèdent et qu'il fallait donc des gens pour les laver. Et petit à petit, en plus des pompes funèbres musulmanes qui ont été mises en place, donc toujours avant tout par des hommes, pour des hommes, eh bien, le besoin de laveuses mortuaires s'est fait sentir et s'est fait entendre. Et la réponse a été, de la part donc de la communauté musulmane française et féminine, l'instauration d'initiations au lavage mortuaire et de formation, parce que comme d'autres choses dans la religion, cela s'apprend et doit être apprise. Donc petit à petit, je me suis tournée vers justement des actrices de ce champ qui, elles-mêmes, en fait, ont évolué et ont fini par être aussi bien conseillères funéraires que directrices de pompes funèbres, en même temps d'être des laveuses, entre guillemets, professionnelles, même si il faut savoir que ce métier n'est pas reconnu par l'État et donc n'est pas diplômant, ce qui leur donne, en fait, justement, une liberté d'action qui font qu'elles peuvent s'organiser et qu'elles peuvent donc monter leur formation comme elles le souhaitent et ce qu'elles semblent être le plus juste, et surtout conforme à leur croyance. Et donc à la fin de mon master, après avoir beaucoup discuté avec mes interlocutrices justement de tout et de rien, je me suis dit, et je leur ai proposé, soumis l'idée plutôt, de pourquoi pas travailler sur leur activité, sur leur métier et sur en fait ce que ça fait eh bien, à la femme musulmane dans la communauté française de nos jours.
Céliande Lebon, vous avez dit parfois activité, parfois métier, parce que ça n'est pas encore stabilisé, certes ça n'est pas encore reconnu, mais à ma connaissance ça ne l'est pas non plus pour d'autres confessions. Laveur, laveuse, mortuaire, ça n'est pas encore reconnu, c'est peut-être en cours d'institutionnalisation. Une activité, c'est quand c'est bénévole, parce que certaines le font d'une manière bénévole, et alors ça devient un métier quand c'est rémunéré au sein d'une agence de pompes funèbres.
En fait, en général, mes interlocutrices, on peut dire entre guillemets, se divisent en plusieurs groupes. C'est qu'il y a des femmes qui vont faire donc cette activité de manière entièrement bénévole, à côté par exemple de leur emploi principal. Donc elles vont réserver un jour dans la semaine ou une matinée pour aller laver des défuntes. En général, la femme, la laveuse, peut accepter ce qu'on appelle une sadaqa. Donc ça veut dire, voilà, on va faire un don pour ce qu'elle a fait. Elles n'ont pas le droit de la refuser. Et en général, elles vont s'en servir pour payer le matériel. Et en fait, le matériel peut être rapidement très coûteux parce que les serviettes qu'on va utiliser pour sécher le corps, par exemple, eh ben on va les jeter directement après, on ne les garde pas. On va acheter le savon, le camphre, le jujubier, voilà, il y a tout un tas d'objets qui vont être achetés et réutilisés, ou parfois tout simplement pour payer l'essence, pour se rendre à un lieu ou à un autre. Donc il y a ce premier cas-là. Il y a aussi des femmes qui vont en fait inclure leur activité de laveuse mortuaire ou bien de formatrice dans le cadre de leur profession qui est déjà inscrite dans le funéraire, comme par exemple conseillère funéraire, aumônière aussi, donc aumônière musulmane dans un hôpital, mais également directrice de pompe funèbre. Et il va y avoir des propositions donc de formation et d'initiation qui seront faites à côté de cette activité. Et en général, les revenus générés seront pour faire marcher l'entreprise funéraire. Ça peut apparaître comme une sorte de salaire parfois, mais c'est vraiment avant tout voilà, pour aider aussi bien la communauté, parce que c'est ce qu'on appelle un fard kifaya, donc un devoir communautaire de laver les défunts et les défuntes, et tout simplement aussi de permettre à la laveuse, qui fait ça tous les jours, eh bien, d'en vivre.
Bien. Céliande Lebon, là nous sommes entrés directement dans le vif du sujet, mais d'une manière générale, ce rite funéraire qui finalement est intrinsèque à la manière de préparer le défunt ou la défunte à aller dans l'au-delà, c'est ça, parce que la mort dans la tradition religieuse islamique et même dans le monothéisme d'une manière générale n'est pas une fin en soi, c'est peut-être même l'ouverture et un début d'autre chose, de la vraie vie.
Sur mon terrain, donc je travaille en majorité avec des personnes qui se revendiquent donc de l'islam sunnite, donc la branche majoritaire en islam, et de l'école malékite, qui suivent donc la sunna, mais également le Coran. Et toutes les indications en fait qui sont données pour pouvoir préparer le corps de la défunte ou du défunt pour justement voilà, faire pratiquer ce passage vers l'au-delà et cette purification, sont inscrites dans la sunna. Donc voilà.
La sunna étant la tradition, pour faire simple. D'accord, oui.
Exactement.
Comment ça se passe, ce rite funéraire qu'est le lavage des corps, des dépouilles mortelles?
Pour justement apprendre et avoir les indications nécessaires pour laver un corps, il faut se référer à la sunna, qui est donc en fait l'ensemble des paroles et des actions du prophète de l'islam, Mohammed. C'est un recueil de hadiths qui ont été récoltés en majorité par Bukhari et Muslim, qui sont deux grands savants musulmans. Et donc, il faut s'y référer en majorité. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, il n'y a que la sourate 5, qui est Al-Maïda.
La table servie, parfois on dit, d'accord ?
Exactement. Oui. Donc, au verset 30 et 31, en fait, on apprend comment enterrer Abel, qui a été tué par son frère. Un corbeau vient gratter la terre. Il faut donc mettre en terre le cadavre. Hélas, ce sont les seules choses qui sont indiquées dans le Coran. Il faut donc se référer à la sunna. Ce qui sera expliqué, ça sera donc comment prendre soin du corps, donc comment le laver, avec quoi et surtout combien de fois, comment est-ce que l'on fait pour un homme. Donc le prophète prend l'exemple d'un compagnon qui est décédé durant un pèlerinage à la Mecque, ou bien comment on fait pour la femme, et là ce sera l'exemple de sa fille Zaïneb qui a été lavée, et ce sera comme ça que l'on saura comment on lave les femmes. Il y a aussi, et ça c'est très important, à savoir, c'est les récompenses qui sont accordées aux personnes qui lavent, ou alors par exemple qui suivent le cortège funéraire, qui enterrent, qui prient et évidemment qui se hâtent d'enterrer la personne. Il est aussi très important de savoir que si l'on ne dévoile rien, et donc on conserve la pudeur de la personne, on sera pardonné 40 fois, et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il y a donc 4 rites obligatoires pour tout musulman, des rites que l'on lui doit, donc comme on a déjà dit dans le cadre d'un fard kifaya, un devoir communautaire, parce que si ces 4 rites ne sont pas faits, en fait, toute la communauté sera, on va dire, prendra des péchés. Comme ce qu'on
explique. Alors, elle était défaillante dans le fait de préserver le corps du défunt et de ne pas le préparer, si je puis dire, à aller rencontrer le Seigneur dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable, surtout si c'est bien comporté dans ce monde-ci.
Exactement. Donc, pour ce faire et pour éviter cela, il faut tout d'abord commencer par le lavage, qui est en fait une purification rituelle. S'ensuit après une mise en linceul, un linceul qui est propre, puis une prière funéraire, c'est la Salat al-Janaza, et enfin un enterrement digne. Il y a quelques exceptions au lavage notamment. Par exemple, les personnes qui seraient tombées au combat, qui sont appelées des martyrs, qui n'ont pas besoin d'être lavées, ou encore les femmes qui sont mortes en couche, qui sont aussi considérées comme des martyrs. Il y a d'autres cas, mais on va dire que c'est les plus connus. Donc, le lavage dans le rite funéraire musulman, c'est réellement un des plus importants, dans le sens où il va falloir en fait donner aux morts ses dernières ablutions pour qu'il soit présenté à son Seigneur comme il est né, c'est-à-dire nu et entièrement purifié. Donc on va commencer par évidemment vérifier, regarder si c'est la bonne défunte qu'on a devant nous. Après, on va commencer, voilà, tout doucement, on va vider le corps des impuretés, on va laver, on va toujours faire attention, pour ce qui est des impuretés, de frôler le corps pour ne pas toucher, et surtout, il faut toujours conserver la pudeur de la défunte.
Par dépens du tissu qui formera le linceul.
Exactement, donc en fait, on va poser sur le corps ce que l'on appelle une sutra, qui va vraiment cacher, donc là, nous on parle des femmes, on va dire d'au-dessus de la poitrine, en général aux pieds. Comme ça, sa pudeur est vraiment préservée et c'est vraiment très important parce que, voilà, si on ne prend pas en charge la pudeur de la défunte, eh bien, on n'aura pas aussi les récompenses en plus du fait qu'on ne la respecte pas. Une fois que le lavage, on va dire, des impuretés est fait, on va passer aux petites ablutions qui vont être faites, puis aux grandes ablutions qui, elles, par contre, on va rajouter un mélange d'eau et de jujubier, on va rincer, on commence toujours par la droite, et après on terminera un dernier rinçage et lavage avec du camphre. Une fois donc que la défunte est purifiée, on va commencer à la sécher, on va changer en prenant bien soin de ne strictement rien montrer la sutra qui est sur son corps, on va la sécher, on va faire 3 nattes à la femme, et après, petit à petit, on va commencer à mettre le linceul. Alors, en général, c'est 3 pans ou 5. Cela dépend du choix des laveuses. Les deux, en tous les cas, les deux avis existent et sont reconnus. Quand on commence en fait à mettre les pans du linceul, on peut rajouter juste avant sur les points de prosternation qui vont être le front, le nez, les genoux et les pieds, du musc. Donc, qui est donc un parfum très odorant, très agréable par ailleurs. Et ensuite, on va commencer à l'envelopper, à l'emmailloter réellement dans le linceul. On peut rajouter petit à petit du musc pour garder l'odeur. Et une fois que tout est fait, on peut laisser le visage un petit peu découvert pour que la famille vienne se recueillir. Et après, la personne sera entièrement recouverte.
Et pour garder un souvenir et un visage rayonnant et une odeur bonne pour les derniers instants qu'on a du défunt ou de la défunte. Pourquoi est-ce que la thanatopraxie, qui dans certains cas, lorsque l'inhumation n'est pas rapide dans le temps, est autorisée, mais d'une manière générale, elle n'est pas tout à fait bien vue ou bienvenue dans les rites funéraires islamiques.
Justement, c'est vrai que c'est une question qui souvent est posée lors des formations ou les initiations au lavage mortuaire. Est-ce que la défunte musulmane peut, par exemple, donner ses organes ou subir, entre guillemets, des soins qui s'appellent invasifs, donc la thanatopraxie? Il est dit que le prophète, en tous les cas, aurait dit que si l'on casse l'os d'un défunt, c'est comme si l'on cassait l'os d'un vivant. L'interprétation est donc la suivante, on n'abîme pas le corps du défunt, on en prend le plus soin possible, réellement, des fois c'est presque, voilà, c'est très maternel, on va dire, comme geste, on va vraiment être extrêmement doux, on va en prendre soin, on va vraiment cajoler la personne, tout en prenant, voilà, toujours, vraiment en faisant très attention à conserver sa pudeur. Et donc, la thanatopraxie est quelque chose qui n'est pas accepté, du moins par les personnes avec lesquelles je travaille, parce que la défunte sentirait ce qu'on est en train de lui faire. Et la thanatopraxie s'appelle un soin invasif, dans le sens où des produits sont mis dans le corps est vidé de son sang. En tous les cas, le corps est, entre guillemets, maltraité, dans le sens où, si la défunte sent ce qu'on lui fait, elle souffrirait énormément.
Même si une des définitions de la thanatopraxie serait prodiguer des soins de conservation et d'embouement, en quelque sorte. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons avec Céliande Lebon, anthropologue, doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, de ce rite de passage pour les morts musulmans et musulmanes, pour les mortes tout particulièrement et surtout pour le métier. Ou une activité de bénévolat pour les laveuses mortuaires. Et pour cette deuxième partie, vous qui avez assisté, cher Céliande Lebon, à des séances de formation, vous avez pu établir une sorte de typologie, que je peux résumer en trois cas. Le premier est celui de cette formatrice qui, tout en expliquant à celles qui viennent apprendre, elle utilise presque un ton homélitique, exhortatif, jouant sur les peurs, sur les craintes, sur l'au-delà. Comment se passe-t-elle avec ce type de formation ? Parfois, j'ai cru comprendre que celles qui viennent s'en transient, saisies de peur, et parfois elles entrent en transe.
Pour ce genre de formatrices qui vont être vraiment sur une séance de rappel ou de témoignage qui vont être, on va dire, un petit peu violents, aussi bien dans le ton qui va être employé que dans les mots, ça va vraiment avoir pour but de provoquer un choc chez le public pour pouvoir se remettre justement dans le droit chemin, pour pouvoir faire face à ses péchés, pour pouvoir doucement, doucement, pendant toute la journée, on va dire, de la séance, se remettre en question, et éventuellement, pour celle qu'il leur a souhaité, c'est-à-dire être cobaye, être mise en linceul, vivre, entre guillemets, sa mort, pour justement, doublement, se remettre en question, et surtout, voir quels péchés ont pu être commis, et comment y remédier, comment se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'on ne fait pas assez, ou qu'est-ce que justement on fait trop. C'est vraiment un moment de remise en question. Et certaines interlocutrices m'ont déjà dit qu'elles allaient à des séances où il y a beaucoup comme ça d'exhortations, quand elles ont ce qu'elles appellent une baisse de foi. Et elles me disent qu'elles ont besoin d'une sorte d'un coup d'électricité pour se remettre vraiment dans la vraie vie. La vraie vie, c'est-à-dire que l'on meurt. Parce que voilà, il y a le quotidien, on ne pense pas forcément au fait qu'on va mourir tous les jours, mais pouvoir soit s'entraîner à pratiquer cette activité, soit juste apprendre, donc apprendre les rites funéraires musulmans, ou écouter des témoignages, ça leur permet vraiment de se réaligner avec elles-mêmes. Et donc voilà, la formatrice, ou d'ailleurs, elles sont plusieurs formatrices dans ce cas-là. Elles vont appuyer sur des points qui peuvent être sensibles, justement pour provoquer des réactions dans le public. Des réactions aussi bien positives que négatives. Ça peut aller des pleurs à des choses un petit peu plus, on va dire, violentes, dans le sens où, voilà, des crises de larmes, ce genre de choses. Mais toujours vraiment en toute humilité. La personne ou les personnes vont crier, les rappels, ils vont vraiment, on va dire, ne pas avoir de pitié. Ça va être, voilà, si des erreurs sont faites, le résultat sera l'enfer et pas autre chose.
Il n'y a pas au moins un discours de type « il y aura quand même le pardon de Dieu » ou « la miséricorde » ou quelque chose de cet ordre, dans ce cas précis, parce que nous avons parlé de trois cas. Là, ça reste drastique.
Alors oui, c'est vrai. Il y a quand même le fait que l'on doit craindre Allah et que l'on doit faire de notre mieux pour lui être soumise, dans le sens lui obéir, être la meilleure d'être le meilleur serviteur de Dieu. Il y a toujours voilà cette idée, bien sûr. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Il y a toujours cette idée de non pas de se racheter, mais de venir
à résipiscence et de venir demander, enfin de pleurer ses péchés en quelque sorte.
Pleurer ses péchés, je ne sais pas, mais on va dire qu'il y a ce travail, que les femmes sont invitées à faire un travail sur elles-mêmes, à voir ce qui ne va pas et pourquoi elles auraient peur de la mort. Parce que le but de ces séances, c'est surtout de ne pas en fait avoir peur, parce que c'est pour un monde meilleur, donc quitter la dunya, donc la vie qui est appelée ici-bas,
oui,
pour le paradis.
Alors, le deuxième cas est tout autre. Ce sont des temps de bienveillance, de douceur, d'un discours apaisant, d'une humilité et de reconnaître la miséricorde divine, sa bonté, son infinie tendresse, l'amour divin, etc. Et là, il y a davantage d'affluence ou comment ça se passe pour cette deuxième catégorie?
Alors, pour cette deuxième catégorie, c'est vrai qu'il est aussi un petit peu plus scolaire, mais c'est ce qui est vraiment recherché aussi par le public. Je pense que les personnes, il y a à peu près le même nombre de personnes qui s'y rendent, parce que c'est un autre besoin, et c'est aussi souvent un besoin complémentaire au premier cas que nous avons évoqué. Des personnes, voilà, vont faire une sorte d'exhortation assez violente, et après, quand elles sont apaisées et ont réfléchi à leur vie, leur péché, elles se rendent à des formations qu'elles estiment plus, on va dire, encadrées, mais aussi beaucoup plus douces, qui se reposent aussi beaucoup plus sur la sororité, pour justement apprendre, et maintenant qu'elles sont nettoyées, on va dire, de leurs erreurs, repartir sur de bonnes bases. Et justement, cette douceur et cette humilité de la part de la formatrice, elle est vraiment beaucoup recherchée, aussi par des femmes qui ne connaissent pas du tout, on va dire, le chant funéraire et qui veulent apprendre à découvrir petit à petit et qui savent qu'elles ne supporteraient pas de se retrouver face à des témoignages, on va dire, un petit peu choquants ou violents et culpabilisants, exactement. C'est chacun à sa manière d'apprendre, en fait, la religion. Et justement, il y a aussi des formatrices toujours dans une, on va dire, avec une ligne directive qui est très douce et qui est surtout de ne pas faire culpabiliser le public, ou du moins les élèves, font des formations chez elles, donc en plus petit comité, ça va être beaucoup plus intimiste, et ça va vraiment être basé sur une certaine confiance. Donc les élèves vont être, par exemple, directement amenés à manipuler, toujours sur une cobaye, donc une femme qui a bien voulu être la défunte du jour, à manipuler, à tester par elle-même pour vraiment aussi dédramatiser ce moment qui peut être évidemment très traumatisant. Donc avant vraiment, voilà, ça sera en petit comité, toujours avec beaucoup de douceur, et les gens vont être amenés à ne pas être seulement public, mais aussi actrices, pour les aider au maximum à appréhender ou aussi à faire leur deuil, si certaines ont vécu il y a peu un deuil, appréhender bien la mort.
Il y a un troisième cas qui serait quasiment ni l'un ni l'autre, c'est plutôt quelque chose de plus objectif, c'est la formatrice, et on reste toujours dans le cadre féminin. J'imagine que dans le cas de l'enseignement pour les hommes, on aurait la même chose, je ne sais pas, je le dis sous votre contrôle. Mais ça, vous ne l'avez pas testé, vous n'avez pas étudié le cas des hommes.
Alors, pour les hommes, de ce que j'ai pu voir et de ce qu'on m'a dit, donc ce dont j'ai pu discuter par exemple avec des directeurs de pompes funèbres ou des laveurs dans des associations caritatives par exemple, c'est qu'il y a moins d'entrain de la part des hommes pour apprendre le lavage mortuaire. Du moins, il y aurait. Ce qui fait que parfois, on va dire que les séances seraient beaucoup moins denses et les participants beaucoup moins nombreux que pour les femmes où, par exemple, dans les deux exemples dont on a parlé, c'est un minimum de 100 personnes à chaque fois, si ce n'est plus. Et les hommes,
Oui, non, je voudrais les hommes.
Les hommes, en fait, la différence, c'est que, en général, la toilette funéraire est comprise dans ce qu'on peut appeler un pack funéraire qui est proposé, en fait, de base, par les pompes funèbres. Donc, un homme peut aussi bien s'occuper, eh bien, de la prière que de la toilette, que de, évidemment, la mise en linceul, et après aussi l'enterrement et le transport du corps. Alors que les femmes, au contraire, elles vont s'occuper uniquement, en général, de la toilette.
On fait appel à elles pour la partie lavage mortuaire.
Exactement.
Et donc, le troisième cas est celui d'une formatrice ou deux formatrices qui se prennent elles-mêmes comme modèle à suivre. J'ai appris cela. Elles sont quand même dans l'écoute bienveillante, mais elles donnent davantage d'interprétations personnelles. Elles sont un peu sûres d'elles-mêmes. Elles ne sont ni dans le discours un peu exhortatif. Elles ne sont pas dans le discours culpabilisant. Elles ne sont pas non plus dans une approche, je ne dirais pas mièvre, je ne me permettrai jamais, mais en tout cas celle de la douceur, de l'apaisement et de la bienveillance. Elles sont plutôt dans l'explication du rite lui-même. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a des débats qui ne sont pas encore tranchés. Le fait de ne pas s'approcher du défunt ou de la défunte quand on serait, quand on est dans une situation où la femme, la laveuse est indisposée. Qu'est-ce qui pourrait motiver ou justifier une telle chose?
Alors, justement, cette question, le sujet des menstruations revient à chaque formation ou même sous chaque poste, que ce soit sur les réseaux sociaux, au sujet du lavage mortuaire, et il est encore discuté dans le milieu. Donc certaines formatrices vont être catégoriques. Une femme qui a ses menstruations ne peut ni s'approcher d'un cadavre, donc d'un homme ou d'une femme, ou bien encore moins laver, on va dire. Mais cette affirmation, on va dire qu'elle est très minoritaire, en tous les cas, sur mon terrain de recherche. Je l'ai rencontrée que deux fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc une femme, la plupart des personnes partent donc du principe que même une femme qui a ses règles peut laver une personne et peut être là pour dire au revoir au défunt, à la défunte. Et ce qui va être très important à souligner, c'est que justement, ce moment-là, donc du lavage, ne sera pas empêché par les menstruations, contrairement à beaucoup d'autres choses dans la vie de la musulmane. Par exemple, voilà, une femme qui a ses règles ne peut pas doit stopper son jeûne, elle les rattrapera après. Cela dépend des interprétations. Certaines personnes disent qu'il n'est pas conseillé d'aller dans les mosquées ou de toucher le livre saint. Voilà, il y a plusieurs interprétations à ce niveau-là, mais il est très intéressant de voir que le lavage mortuaire permet justement une certaine égalité avec les hommes à ce moment-là précis, parce que, quoi qu'il arrive, une femme peut laver, que ce soit enceinte, que ce soit après son accouchement, si elle le souhaite, que ce soit quand elle a ses menstruations ou autre, comme un homme, elle peut laver et ça ne pose de problème à personne.
Qu'en est-il de ce métier-là? Il commence à être un peu cadré. Ça se passe comment dans les pompes funèbres?
Cette activité slash ce métier, on va dire qu'il n'y a toujours pas de reconnaissance donc par l'État. Donc ce n'est pas encadré, donc dans le sens où il n'y a pas de diplôme, par exemple. Ce n'est pas une formation diplômante. C'est donc quelque chose que les femmes font et organisent entre elles, ce qui leur laisse justement une certaine liberté dans ce qu'elles organisent et ce qui leur permet justement de ne pas avoir un schéma figé sur ce qu'il faut faire dans l'organisation globale, par exemple, ou ce qu'il faut dire. Certaines se basent sur, par exemple, des recueils sur les rites funéraires de Cheikh Albani, par exemple, donc les innovations et les rites, ce qu'il faut faire et ne pas faire, tandis que d'autres vont tout simplement faire une première partie qui va être témoignage, ou bien rappel, ou bien elles vont parler d'elles-mêmes, comme des exemples à suivre, ce qu'elles ont fait, leur propre expérience et ce que ça a donné aujourd'hui. Et petit à petit, de toute manière, il y aura toujours le moment le plus important, qui est l'apprentissage des gestes et la connaissance des différents objets utilisés et utilisables pour le lavage mortuaire, et la mise en linceul, qui va être vraiment la dernière partie qui est pour conclure, et aussi une partie qui va être très éprouvante, par exemple pour la cobaye, parce que on va lui demander après...
La cobaye, c'est cette dame qui joue la défunte au moment des formations.
Exactement. Ça va être...
Et on n'utilise pas de mannequin ?
Alors si, parfois, quand aucune personne du public ne désire en fait vivre cette épreuve, qui peut être très difficile, eh bien, un mannequin va être utilisé pour ça. Donc voilà, alors donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de témoignage de fin de séance, mais tout pourra être reproduit exactement comme sur un vrai corps.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec Céliande Lebon, anthropologue et doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, on parle du rite funéraire en contexte islamique et tout particulièrement du rôle des femmes comme laveuses mortuaires, puisque la toilette mortuaire étant genrée, les hommes lavent les hommes et les femmes lavent les femmes. C'est devenu, surtout dans un cadre laïque de l'État français, une sorte d'activité de plus en plus demandée. Et donc il y a là la perspective d'un métier en devenir. Céliande Lebon, pensez-vous qu'il y a des perspectives d'émancipation pour les femmes laveuses et surtout pour les croyantes musulmanes d'avoir par ce métier, quand il y a une professionnalisation et une reconnaissance de cette profession, un effet émancipateur?
Alors, c'est vrai que de pouvoir faire cette activité, ça permet à des femmes de pouvoir tout d'abord vivre leur religion autrement. C'est souvent une phrase qui revient sur le terrain, c'est qu'elles sont très fières et très heureuses de vivre leur religion d'une manière plus forte et totalement différente de comment elles la vivaient avant. Et ça leur permet aussi de pouvoir travailler, donc d'avoir une activité par exemple donc rémunérée, tout en pouvant porter eh bien, le voile ou le djilbab sans avoir à l'enlever si elles doivent travailler dans quelque chose de public ou autre. Ça leur permet vraiment de pouvoir vivre leur islamité comme elles le souhaitent, et justement sans aucune barrière. Et ça leur permet donc aussi de pouvoir se déplacer comme elles veulent. Et par exemple, certaines vont très très loin. Si elles ont un lavage dans une ville où il n'y a personne, elles prennent la voiture, elles y vont. Voilà, cela ne pose aucun problème parce que voilà, c'est pour la religion et c'est aussi surtout pour la communauté. Donc cela est fait et cela n'est jamais discuté.
Et pour les bénévoles, elles ne sont pas tenues d'être voilées dans leur vie de tous les jours et elles le sont au moment du lavage mortuaire.
Alors, pendant le lavage mortuaire, rien n'est indiqué sur la tenue de la femme, excepté évidemment un tablier, des gants, des masques pour se protéger. Moi, je travaille avec des femmes qui sont... je travaille avec des femmes qui sont toutes voilées, en majorité qui portent le djilbab, mais certaines m'ont déjà expliqué qu'en soi, dans la salle, on peut venir habiller comme on le souhaite. Et je connais des femmes qui ne portent pas de voile, qui sont laveuses. Tout dépend, vraiment, il n'y a pas d'obligation. Certaines vont dire, je vous conseille de porter, par exemple, votre voile, si après vous allez prier à la mosquée. Donc faire la salat el-janaza, la prière funéraire. Mais en soi, il n'y a pas de tenue qui est demandée ou autre à la femme pour le lavage funéraire. C'est vraiment, justement, très intéressant parce que, alors, bien sûr, en suivant la sunna, elles sont libres d'elles-mêmes, de leurs gestes et de tout ce qu'elles font autour de ça. Et l'argent qu'elles vont gagner, c'est évidemment c'est elles qui le gèrent. Certaines le donnent, elles font des associations entre amis. Elles vont le mettre dans une cagnotte pour pouvoir financer leur activité. Certaines vont les utiliser pour autre chose. Voilà, ça leur donne vraiment, certes, une certaine émancipation, mais aussi ça leur permet d'affirmer leur place dans la communauté à leur échelle et de montrer que les récompenses divines, elles les méritent aussi, puisque hommes et femmes seront récompensés s'ils lavent et qu'en plus, ils ne dévoilent rien. Donc c'est vraiment pour... Il y a eu vraiment une... entre guillemets, un engouement pour cette activité, parce que beaucoup de femmes disent qu'elles veulent récupérer un rôle qui, parfois, leur a été enlevé à cause de ce qu'elles nomment les traditions, par exemple, de leur pays d'origine, où c'était très souvent, et c'est encore le cas parfois aujourd'hui, des personnes âgées qui s'en occupaient et personne d'autre. Une femme jeune qui lave, c'était très mal vu, pour tout un tas de raisons, mais ce n'était pas du tout accepté. Même presque voir le corps, ce n'était parfois pas accepté. Alors qu'en France, comme vous l'avez souligné, en plus dans un contexte laïque, où ces traditions n'ont pas suivi, eh bien les femmes peuvent récupérer, si le mot est juste, peuvent prendre ce rôle et vraiment pouvoir bénéficier de tout ce qui va avec.
Bien. Alors vous avez évoqué les pays d'origine. Il y a le cas de celles qui n'ont d'autres pays d'origine que le leur, la France, soit parce qu'elles sont là depuis des générations, soit parce qu'elles sont tout simplement, comme on dit maintenant, converties. Et elles au pluriel, elles investissent de plus en plus ce milieu des pompes funèbres qui étaient masculins. Et là, elles deviennent elles-mêmes directrices, gérante de ces agences de pompes funèbres.
C'est vrai qu'on retrouve plusieurs personnes, donc voilà, plusieurs femmes qui se sont converties à l'islam il y a très longtemps, pour la majorité, et qui sont aujourd'hui directrices ou conseillères funéraires, ou aussi formatrices, mais à temps plein, on va dire. Et en général, c'est justement l'activité sera vue comme un véritable devoir envers la communauté musulmane, mais aussi un moyen, d'un certain côté, de faire sa place dans la communauté en rendant service aux gens et en prenant soin des défuntes, et des défunts aussi, mais là, évidemment, on parle des défuntes, en essayant au mieux de respecter donc la sunna et tous les rites qui vont avec.
Céline Lebon, en réalité, c'est plus une vocation qu'une profession, puisque au début de l'entretien, vous nous avez parlé de ces femmes bénévoles qui finalement ne refusent pas l'aumône qu'on leur donne et elles la redistribuent ou elles la gardent pour être défrayées. Mais en principe, ça ne devrait pas être un métier. Sauf que là, les choses se professionnalisent parce qu'il y a peut-être davantage de... par le nombre, tout simplement, de défuntes, et on a besoin davantage de laveuses mortuaires.
Oui, exactement. C'est vrai que certaines personnes en font, alors toujours entre guillemets, vu que ce n'est pas reconnu d'un point de vue de l'État, un métier, parce qu'elles le font, comme vous l'avez dit, tous les jours. Matin, en général c'est le matin, parfois l'après-midi. Donc forcément, au bout d'un moment donné, lorsque c'est vraiment une activité qui nous prend tous les jours, la personne a besoin d'un revenu, mais c'est totalement, ce n'est pas du tout, les femmes qui font ça ne seront pas jugées, parce que ça découle d'une certaine logique. Si on en fait son activité principale, il faut bien, surtout si on a une famille, si on a des enfants, il faut bien en vivre aussi. Après, le fait que ce soit aussi perçu comme une vocation, c'est un discours qui est aussi beaucoup tenu par certaines interlocutrices, dans le sens où cela leur fait réellement du bien de laver. Ça leur permet de se, elles-mêmes, de se recentrer et de ressentir la présence de Dieu. Certaines témoignent même en disant qu'elles préfèrent laver seules, même si c'est très compliqué parce qu'il faut bouger le corps seul, parce qu'elles se retrouveraient en face à face presque avec Dieu, et elle sentirait vraiment l'énergie divine circuler, et en plus de vivre aussi, pour celles qui lavent avec des membres de la famille bien sûr, l'intimité du moment qui est partagée, il y a vraiment, lorsque l'on sort d'un lavage mortuaire, cette sensation d'accomplissement, de bonne action évidemment, et aussi vraiment de soulagement et de recentrement sur soi, toujours en rapport avec Dieu. C'est quelque chose qui fait du bien. Même quand c'est des lavages qui peuvent être compliqués, par exemple, voilà, tous les corps ne sont pas malheureusement en bon état. Des fois, ça peut être très sanglant, si je peux me permettre. Ou bien ça peut être des bébés, des enfants. Car hommes et femmes peuvent laver des enfants de sexe opposé jusqu'à leurs 7 ans. Donc ça peut être compliqué, surtout si, par exemple, voilà, la personne est aussi une maman, c'est difficile. Mais il y aura toujours le fait que c'est une bonne action et que c'est une action très honorable et qui est aussi, entre guillemets, vitale pour les vivants, justement, de prendre soin du mort et qui va vraiment faire du bien avant toute autre chose.
Et les aumôniers, vous savez, je suis de la vieille école qui ne féminise pas aumôniers, pèlerins, témoins, même si certains veulent le faire. Et j'ai toujours compris que l'aumônière, c'est plutôt la bourse dans laquelle on met un peu d'argent. Mais en tout cas, les femmes aumôniers, ou aumônières maintenant comme on dit, elles réservent une partie de leur temps, puisqu'elles ont un devoir de conseil, ou en tout cas une mission d'écoute, de conseil. Elles le font aussi, ce lavage mortuaire.
Oui, il y a les aumônières, s'occupent aussi donc de la visite des malades, et bien évidemment, elles lavent les défunts. Donc elles vont toujours laver les femmes et les enfants et les bébés. Mais c'est quelque chose qu'elles font activement parce qu'elles vont être, par exemple, engagées dans un hôpital, donc rattachées directement. Dès qu'il y a le décès d'une défunte, elles seront directement ici. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'elles auront travaillé parfois avec la personne qui est, on va dire, moribonde. Et ça rassure énormément de savoir que c'est la personne qui est en face de moi, qui justement est très gentille et très douce, qui prendra soin du corps, de mon corps, quand je ne serai plus là. Donc je lui fais une amana, c'est-à-dire un dépôt devant Dieu. Je lui confie vraiment mon corps. Et il y a aussi vraiment ce côté psychologique qui aide énormément les patientes. Dans les hôpitaux, et l'aumônière vraiment sera très active est très fière de son métier. J'ai discuté avec plusieurs aumônières. Certaines me disent qu'elles sont fatiguées aujourd'hui, après plus de 30 ans, par exemple, d'exercice, parce qu'elles sont souvent très seules. Et étant donné qu'on ne peut pas dévoiler ce que l'on voit ou ce que l'on vit dans une toilette funéraire, c'est parfois lourd, en fait, à porter. Et donc, que ce soit voilà, des aumônières ou d'autres laveuses, certaines vont essayer, on va dire, de se
réunir en groupe de thérapie par la parole, même si c'est informel.
Voilà, c'est ça.
Et d'autres qui vont faire de la randonnée seule pour, aller utilisant le terme, décompresser.
Exactement, pour décompresser. Certaines me disent pour aussi admirer la beauté de ce que Dieu a fait, par exemple, voilà, dans un paysage.
Les splendeurs de la création.
Exactement, les splendeurs de la création. Et puis vraiment aussi se vider la tête, parce qu'on reste humain. Certaines choses peuvent être violentes et choquantes. Ou certaines, voilà, font des groupes de paroles informelles. Qu'entre laveuses, bien sûr, je précise. Par exemple, je sais pas, elles vont être deux, trois laveuses à se réunir, et à vont dire c'était compliqué, et elles partagent entre elles ce que... Alors, c'est toujours pareil, il y a toujours l'anonymat de la défunte. Rien d'important ne sera dit, mais ça va être juste le ressenti qui va être vraiment, comme vous l'avez suggéré, le but, ça va être, on va décompresser un petit peu les choses qui sont compliquées, on va les évacuer. Parce que aussi, le risque qu'il peut y avoir, c'est d'avoir été traumatisé par un lavage et ne plus retourner, comme elles disent, en salle avant longtemps, tant c'était justement difficile de faire l'action et d'avoir peur que ça recommence, que d'être re-traumatisé comme ça. Et ça peut vraiment être aussi compliqué. Donc, elles vont parler de West-West, par exemple, donc de penser...
West-West, c'est Satan qui vient susurrer des choses mal intentionnées.
Exactement, c'est ça. Donc, et elles n'arriveront plus, certaines, pendant plusieurs années, à laver.
Ceci est plus culturel qu'autre chose, l'histoire du West-West.
Alors moi, les personnes qui m'ont dit la crainte des West-West... C'est souvent, enfin voilà, ce sont des personnes françaises avec des origines ou non, mais voilà, ce serait, c'est peut-être français alors dans ce cas-là.
Non, mais je n'ai fait que poser une simple question. Il y a peut-être un point important aussi, c'est que parfois, et je ne sais pas dans quelle mesure, les laveuses mortuaires participent avec les familles. Dans ces dynamiques complexes du deuil, elle les rassure du fait que les derniers instants, ici-bas, avant la mise en terre et avant l'inhumation, que le corps de la défunte a été préservé et mieux présenté avec le musc, le camphre et ces odeurs agréables qui sont des exhalaisons de cette dépouille mortelle.
Oui, c'est vrai que vraiment les sens, pour le coup, donc surtout la vision et l'odeur, vont être très importants dans le processus de deuil, aussi bien pour rassurer les familles que pour aider tout simplement à faire son deuil. Dans le sens où, souvent, sur le terrain, j'entends que la défunte doit être aussi belle qu'une mariée. La défunte est souvent vue comme étant resplendissante, voire brillante, de la luminosité, notamment de son visage, quand il est encore découvert, s'en échapperait. Il y a vraiment toujours des remerciements très chaleureux envers les laveuses, parce qu'il est très important pour les familles, surtout si, par exemple, la femme a beaucoup souffert avant de mourir, que c'était long, ce genre de choses. Ce besoin de savoir que la personne est maintenant... a été prise entre de très bonnes mains, a été vraiment cajolée. C'est pour ça que parfois on parle presque de sage-femme de la mort, parce qu'elles ont été cajolées presque comme des enfants, elles ont été prises dans leurs mains, les gens ont été doux avec, on les a presque caressées pour les laver, on les a voilà, induites de bonnes odeurs. Et souvent, parce qu'il y a certes toujours la laveuse, elle est toujours avec une assistante, idéalement une troisième assistante, mais quand on ne peut pas, eh bien c'est toujours la famille, donc les femmes de la famille qui viennent laver, et le fait de pouvoir laver une personne qu'on aime qui est partie, c'est très souvent aussi un moyen de commencer et à faire le deuil, justement. Qui plus est, alors en France, cela diffère un petit peu, mais dans certains pays, d'origine, dans certaines sociétés musulmanes, par exemple en Afrique du Nord, la femme ne pouvant pas assister à la mise en terre, le lavage est donc un moment extrêmement important parce que ça va être leur revoir définitif. Entre ça, s'il y en a une veillée, ou du moins un au revoir dans un funérarium, ça va vraiment être vital parce que on ne verra pas le corps être mis en terre.
Ce que vous dites par rapport à cette douceur, à ce travail pour le corps des défuntes, donc des femmes mortes, c'est aussi le cas pour les hommes ou pas? C'est à la fois le laveur mortuaire traite de la même façon le corps masculin.
Oui, bien sûr, l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, le corps doit toujours être traité et manipulé avec le plus grand soin, parce que c'est vraiment, on part aussi du principe que si l'on fait mal ou si l'on abîme le corps du défunt, il peut aussi le ressentir. Du moins, des avis de juristes, de savants diraient qu'on le ressent. Donc il y a vraiment cette attention qui est obligatoire, on va dire, et qui est vraiment toujours le mot d'ordre lors d'un lavage. Par exemple, on va souvent indiquer lors des formations, hommes ou femmes, au public, aux élèves, on va leur dire, si la personne est décédée devant vous, n'hésitez pas, par exemple, à toucher les membres et à les mettre dans une position qui ne sera pas compliquée après quand on... Enfin, qui ne va pas compliquer le lavage, pour ne pas, par exemple, par peur de casser les os ou ce genre de choses. On va toujours faire en sorte de garder la pudeur et surtout le soin au toucher qui est apporté vraiment à la défunte.
Bien, c'est Lian de Lebon, nous arrivons au terme de l'émission. Merci d'être venu nous parler de ce métier féminin, en tout cas, qui est émancipateur pour les croyantes musulmanes, bien qu'il soit empreint d'une grande religiosité et qu'il soit si bien codifié tel que vous nous l'avez présenté. En tout cas, merci à vous.
Merci beaucoup.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boisset et la réalisation par l'ami François Connac.